Dom Théo. Dom Théo, un dialogue théologique avec les dominicains de Toulouse.
Bonjour frère Édouard.
Bonjour frère Philippe.
Nous parlions la dernière fois des pharisiens, du positionnement des pharisiens par rapport à Jésus, et en montrant que pharisiens ne pouvons pas rester dans une vision péjorative uniquement. Il y a quelque chose de beau à vouloir suivre la loi, être en relation avec Dieu. Mais le problème, on voit bien que la crispation débouchait au fait que les pharisiens se rendent compte que Jésus s'identifie à Dieu. Jésus pardonne les péchés. En pardonnant les péchés, il se fait l'égal de Dieu, dit la fin du 589, l'article 589 du catéchisme. Et le catéchisme dit ici, ou bien Jésus blasphème en pardonnant les péchés, ou bien Jésus blasphème, car c'est un homme qui se fait l'égal de Dieu, ou bien il dit vrai, et sa personne rend présent et révèle le nom de Dieu. Eh bien, c'est intéressant de nous poser la question, comment Jésus révèle-t-il son identité? Parce que peut-être d'ailleurs que la crispation pour les pharisiens, c'est aussi que attendrait-il quelque chose de net, très, très carré, et que dit-il de lui-même? On peut dire c'est vrai, c'est pas vrai, et puis on passe à autre chose. Jésus ne fait pas comme ça. On sent bien que dans l'évangile, Jésus il va par petites touches. Jésus dit certaines choses en certains cas. Je pense aussi, dans les évangiles, il y a une pédagogie qui peut-être marque beaucoup chez saint Marc. On parle de ce secret du Messie. Jésus dit n'en parlez pas, ne le dites pas ce qui s'est dit là. Et moyennant quoi, en fait, ça fait son chemin d'une façon ou d'une autre. Il y a une pédagogie de Jésus. Comment faut-il la voir? Est-ce que Jésus se cache ou est-ce que Jésus est délicat avec nous? Est-ce que Jésus sait que nous avons besoin de temps? Comment en parler de cette pédagogie de Jésus, frère Édouard?
Oui, il y a certainement dans les synoptiques une attention particulière à cette pédagogie de notre Seigneur. Tu évoquais le secret messianique, c'est-à-dire le fait de ne pas dire trop tôt que Jésus est le Messie. Les démons s'en précipitent pour le dire publiquement, mais c'est la voix des démons et les personnes ont bien raison d'être suspicieuses quand c'est un démon qui parle. Mais Jésus ne les contredit pas sur cette vérité, il les fait taire seulement. Et Jésus, de fait apparaître son identité à travers les événements. C'est comme le kairos de l'Ancien Testament, le katz, le moment où Dieu intervient dans la vie des hommes. Il intervient, je dirais, à des moments clés. Et à chaque fois qu'un moment clé est donné par la providence, c'est la volonté de Dieu qui s'exprime dans la providence, alors Jésus, dans son humanité, sent bien que lui-même, étant dans sa divinité tout à fait en phase avec la providence, qu'il peut, dans son humanité, exprimer la vérité de ce qui advient. Et donc il le fait par pédagogie d'une manière croissante. Et en fait, tout du long de l'évangile, on voit bien cette opposition à Jésus, lorsque celui-ci dit qu'il est tellement uni à son Père, « Mon Père, quant à ce qu'il m'a donné, est plus grand que tout, nul ne peut rien arracher à la main du Père, moi et le Père, nous sommes un. » C'est impressionnant d'avoir dit ça dans l'évangile de Jean au chapitre 10, cette identité avec le Père, tout en reconnaissant que le Père est plus grand que lui. Plus grand que lui du point de vue de son humanité, égal du point de vue de sa divinité, soyons bien d'accord. Et aussi reconnaissant que même dans la divinité, le Verbe tire son origine du Père. Donc on peut dire que le Père, même dans la Trinité, est au-dessus, quelque part. L'expression est un peu impropre, du Fils, mais c'est lui qui, le Père, qui engendre le Fils, et pas réciproquement. Et donc, quand Jésus a déclaré cela aux foules, quelle est la réponse des Juifs, on peut dire des pharisiens qui sont avec ces Juifs? Eh bien, ils lui répondent, en approchant des pierres pour le lapider, « Ce n'est pas pour une bonne œuvre que nous te lapidons, mais pour un blasphème, et parce que toi, n'étant qu'un homme, tu te fais Dieu. Donc ils ont très bien compris, les pharisiens, que poser des gestes à travers les événements comme guérir et pardonner les péchés montre bien que Jésus affirme à travers ces événements et à travers les gestes qu'il pose et les paroles qu'il pose son identité avec Dieu. Celui qui n'est pas avec moi est contre moi, note le catéchisme numéro 590, c'est une autre manière de montrer que Jésus à la fois utilise une pédagogie, je dirais, progressive, mais en même temps, il déclare très net la frontière. Celui qui n'est pas avec moi est contre moi. Celui qui n'amasse pas avec moi disperse, ajoute-t-il. Et donc, on comprend très bien qu'il pose une frontière. Il ne s'agit pas seulement d'éduquer la foule à petits pas, je dirais. Il veut une prise de position. Il réclame la foi, dans le fond.
Ah oui, une prise de position.
Oui.
Et ce qui nous fait comprendre un peu le processus, tu as dit, de la foi. J'allais dire, la foi, il y a quelque chose de la foi qui est un projet. On avance dans cette connaissance de Dieu, dans cette relation avec Dieu, dans cette compréhension de ce qu'est le Fils qu'il a envoyé, notre relation à lui. C'est ça que je dis quand il s'agit d'un projet. On voit qu'on part du tâtonnement et on va devoir entrer dans cette certitude qu'est la foi.
Oui, et cette certitude, donc Jésus l'a construit à force d'affirmations très fortes pour que les gens puissent adhérer. Par exemple, il dit qu'il y a ici plus que Jonas. Jonas est quand même considéré comme un prophète assez extraordinaire qui a fini par obéir parfaitement à la volonté de Dieu, qui a eu des miracles au cours de sa vie, plus que Salomon. Salomon, c'est le constructeur du temple, donc c'est le centre de la vie juive, plus que le temple lui-même, alors que le temple est le lieu de la manifestation de la Shérina, c'est-à-dire la présence divine, donc c'est quand même assez extraordinaire d'affirmer cela. Et il appelle David d'une manière telle que celui-ci déclare que le Seigneur est le Messie. Tu as dit à ton Seigneur, mon Seigneur, et donc il montre bien qu'il y a une attente de quelqu'un qui va recevoir le titre de Seigneur, donc le titre de Dieu. Et il affirme surtout sa préexistence par rapport à l'ensemble de la révélation, puisqu'il déclare en Jean 8, 58, « Avant qu'Abraham fût, je suis ». Et ce mot « je suis » nous renvoie à l'Exode au chapitre 3, où Dieu lui-même, quand il s'était adressé à Moïse, avait déclaré « Je suis celui qui est ». Où je suis celui qui suis. Et cette expression montre bien que Jésus n'a pas peur de recevoir les attributs divins et d'affirmer sa préexistence. Et là, je dirais, c'est rédhibitoire. Ou on est d'accord et on le suit et on rentre dans le mouvement, je dirais, d'adhésion. Jésus dit vrai et sa personne rend présent et révèle le nom de Dieu et lui-même comme fils de Dieu, ou je le rejette et je refuse la foi qui commence à naître à travers les signes, les événements, les paroles que Jésus donne. Donc Jésus a demandé aux autorités religieuses de Jérusalem de croire en lui à cause des œuvres de son Père qu'il accomplit. C'est très net. Jésus n'a pas eu peur de déclarer que c'était cela pour lequel il était venu et qu'il convenait à cette action d'y répondre positivement. Je vous l'ai dit et vous ne croyez pas, les œuvres que je fais au nom de mon Père témoignent de moi. Mais vous ne croyez pas parce que vous n'êtes pas mes brebis. Mes brebis écoutent ma voix, je les connais et elles me suivent. Je leur donne la vie éternelle, elles ne périront jamais. Et nul ne les arrachera de ma main. Donc ça montre bien le passage de la constitution d'un groupe qui adhère à lui, ses brebis, et ceux qui le refusent. Donc il y a bien un partage des eaux entre ceux qui ont la foi et ceux qui ne l'ont pas. C'est une énorme erreur, je pense, contemporaine, de croire que tous ceux qui sont riches de confiance en eux-mêmes, d'une générosité d'être, sont équiparables à ceux qui ont la foi. Non, la foi est vraiment un don de Dieu. Or, actuellement, il y a tout un courant de pensée qui veut, sous prétexte de théologie des religions, faire que tous ceux qui sont généreux, qui sont croyants, qui sont de bonne volonté, etc., sont équiparables à la foi. Or, non, la foi, c'est vraiment un degré dans l'adhésion à Jésus-Christ. Mmh.
L'Évangile nous montre ce Jésus, nous montre ses œuvres. Dans cette humanité, comme nous le disions, Jésus dévoile la vérité de ce qu'il est, de ce royaume qui advient. Mais effectivement, dans le centre de notre regard, c'est ce Jésus que nous voyons. C'est en lui que nous mettons notre foi. Les évangiles, avec cette narration, cette histoire qui est notre histoire, l'histoire de notre salut, nous fait vraiment entrer dans la foi, mais il en est au centre.
Oui, il en est au centre, et nous devons bien comprendre l'erreur tragique, dit le catéchisme numéro 591, l'erreur tragique, la méprise du Sanhédrin qui estime que Jésus méritait la mort comme blasphémateur. Et donc, ils ont certainement agi par ignorance, par endurcissement, par incrédulité. C'est Dieu qui a jugé. Nous ne pouvons pas les mettre tous ces juifs opposants dans la même ligne nécessairement. Il y a eu du plus et du moins, il y a eu des passifs, il y a eu des actifs. Et l'Évangile donc les désigne, selon ces différents titres, d'ignorance, d'endurcissement, d'incrédulité. Et c'est la fin du 580.
Oui, ça fait partie de notre examen de conscience à faire en permanence,
d'ailleurs. Et nous aussi, parce que de fait, nous sommes tous appelés à la conversion et à cette nouvelle naissance d'en haut qui mérite sans cesse de se laisser attirer, comme dit très bien quelques lignes plus haut le catéchisme, attirer par la grâce divine.
Merci, frère Édouard.
À bientôt.